Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur BFM TV et RMC. Bonjour Dominique Rizet.
Bonjour Marie.
Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Je le disais, on ne vous présente plus. Vous êtes consultant police-justice BFM TV et la voix aussi et le visage de ces grands récits d'affaires criminelles qui ont traversé notre époque. Et au nom de ces grandes affaires criminelles, celle de Cédric Jumillard en est une. Une affaire hors norme, on va y revenir en détail, qui après plus donc de 5 années de dénégation, de non-dit devant la justice... Eh bien, les aveux, et peut-être la fin d'une énigme, jamais il n'avait collaboré avec la police. Ouais. Hier, il les a amenés sur les lieux où il a enterré son épouse. On va y revenir là aussi longuement. On pense aussi quand même à la famille de Delphine Jubilard, ses enfants. On verra d'ailleurs ensemble ce que ça va changer aussi pour eux. Mais d'abord, Dominique, depuis 7h ce matin, les fouilles ont repris à une dizaine de kilomètres de là où habitaient Delphine et Cédric Jubilard, dans un champ. Des fouilles qui ont repris, selon vous, est-ce qu'elles peuvent durer encore longtemps, ces fouilles?
Oui, ça peut durer longtemps. Le site est protégé. Hein. Toute cette nuit, on avait posé un barnum au-dessus de l'endroit où étaient retrouvées déjà des parties du corps de Delphine Jubilard hier. Hein. 2 fémurs, c'est ce qu'on avait, et quelques ossements. Oui, ça peut durer 2-3 jours. À partir du moment où le site est protégé, les enquêteurs sont sur place, les techniciens d'identification criminelle, les anthropologues, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, les gendarmes aussi de la section de recherche de Toulouse qui sont chargés de l'enquête, donc ils vont tout noter, tout observer.
C'est là une scène de crime gelée, Dominique, c'est ça qu'il faut comprendre, ce champ.
C'est une scène de découverte du corps.
Découverte
la scène de crime,
corps.
Elle est ailleurs.
D'accord.
Mais c'est une scène de découverte du corps, oui, elle est gelée, et puis les gendarmes vont filmer en 3 dimensions, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on découvre des ossements, vous savez, c'est comme les archéologues qu'on voyait en Égypte avec des pinceaux. On nettoie, on enlève la poussière, la terre, et on prélève un morceau du squelette qu'on va retrouver. On le conserve et ensuite, plus tard, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, à Pontoise, on va essayer de reconstituer ce corps pour essayer de le faire parler. Et en même temps, on filme en 3 dimensions. C'est-à-dire que plus tard, on pourra revenir sur la scène de crime dans une pièce où tout aura été filmé.
Et ça les servira aux enquêteurs pour interpréter et tenter d'avancer dans l'enquête.
À la justice, on peut même projeter des éléments comme ça devant la cour d'assises.
Dominique, vous le précisiez, 2 fémurs ont pour le moment été retrouvés. Des informations au fil des heures nous parviennent. Mm-hmm. On va prendre du conditionnel et être précis et prudent. Selon la Dépêche et nos confrères de la Dépêche du Midi...
Frédéric Abélard.
Absolument. C'est un champ qui aujourd'hui ausculté de très près.
Absolument.
Et les informations qu'ils ont à leur disposition, c'est que c'est un terreau, un terreau de près de 3 mètres, qui a été visité, j'ai envie de dire, par Cédric Jubilard à l'époque.
Absolument.
De 3 mètres, qui ensuite, ce terreau, a été épandé dans un champ. Qu'est-ce que cela dit des futures fouilles, justement? Parce qu'épandé, il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est de la terre qui a été ensuite déversée sur le champ pour l'aider à être cultivée.
Alors moi, Marie, en plus d'être un journaliste police-justice, je suis un garçon de la campagne. Toute ma famille a des fermes en Saône-et-Loire. Je connais bien, j'ai grandi dans ces fermes, j'y suis allé. Donc c'est un champ, on a posé hier la question... avec Alice Darfeuille et Pauline Revenin, on a posé la question au maire de Mayoc, qui s'appelle Jean-Jacques Escout, et on lui a dit, est-ce que ce terrain était entretenu? C'est important. Et il nous a répondu oui. Entretenu, ça veut dire que si on y plante de l'orge, on y plante l'année suivante du blé, on y plante du colza, eh bien chaque année, il faut le labourer. Avant de planter, il faut labourer. Avant de moissonner, il faut labourer. Ça veut dire que s'il est entretenu, on va poser la question au propriétaire du terrain, est-ce que vous avez labouré votre terrain? Dans quel sens labourez-vous? Parce que ça veut dire qu'il peut avoir déplacé le corps. Et puis ensuite, cette information que nous donne Frédéric Abélard, qui connaît bien le dossier, qui est, visiblement, on l'a tous compris, proche des avocats, mais chacun de notre tour, journaliste, on est proche d'avocats dans des dossiers judiciaires. S'il donne ces informations, c'est quelqu'un lui a donné et c'est quelqu'un qui était sur place. Donc, le corps serait dans un monticule de terreau. Donc, le terreau, c'est pour de l'épandage. On l'attrape avec une pelle agricole. On le met dans une machine qui sert à épandre. Derrière, il y a une vis sans fin. Le tracteur traîne cette machine. et envoie de l'épandage dans le champ.
Mais à vous écouter, Dominique, ça paraît presque du ressort du miracle d'avoir retrouvé dès hier, sur indication de Cédric Jubilard, de premiers ossements. Parce que ça veut dire que possiblement, eh bien, ces ossements sont éparpillés bien partout sur un champ, possiblement sur des mètres ou des kilomètres carrés.
Alors, c'est possible. Oui. Et je reviens à votre première question. Est-ce que ça va encore durer longtemps? Oui, ça va durer longtemps. Parce qu'il va falloir collecter dans un espace bien plus large qu'un simple espace où on déposerait un corps. Pour avoir une idée, on voit une tombe avec un corps. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Là, les éléments du corps qu'on pourra retrouver, ils sont pas à un endroit précis, rectangulaire. Ils sont dans un champ. Et possiblement, ils ont été éparpillés par cette machine. Pardon pour ce détail, mais on parle criminologie.
Ouais, et c'est très important d'avoir votre expertise là-dessus. Qu'est-ce que l'on cherche? Que cherchent là aujourd'hui, ce matin, les enquêteurs? Ces deux fémurs ont été retrouvés. Ouais. Depuis 7 heures, les fouilles ont repris, on le redit. Comment ils procèdent?
Alors les enquêteurs, ils savent déjà si ces fémurs sont ceux de Delphine Jubilard. Parce que dans des fémurs, même aussi longtemps après, le fémur c'est l'os long, c'est l'os le plus long du corps. Et on y retrouve de l'ADN, même 5 ou 6 ans après. Donc ils savent déjà si ces fémurs sont bien ceux de Delphine Jubilard. Et il y a vraisemblablement très peu de doutes que ce soit quelqu'un d'autre que Delphine
Jubilard. Ce que laissait d'ailleurs sous-entendre hier l'avocat de Cédric
Jubilard.
Bien sûr, hein.
Absolument. Donc maintenant, il faudrait retrouver d'autres éléments. Le bassin, des os importants. On ne retrouvera pas les os des mains, des pieds, évidemment. La tête, le crâne.
Peut-être parce un crâne, en effet.
On peut découvrir sur un crâne une fracture ou une trace de coup qui mettra à mal la version donnée par Cédric Jubilard, que je ne connais pas exactement. Mais en tout cas, ses avocats disent il n'a pas voulu... il n'a pas voulu donner la mort
et ça,
à son épouse, évidemment.
Sur la stratégie, justement, de sa défense. Mais juste, vous disiez, je vous cite, les ossements parlent. On
bien
peut
sûr,
faire parler les os.
Évidemment.
C'est ça aussi à quoi vont s'attacher les prochaines analyses. Vous parlez de l'IRCGN à Pontoise. Mm-hmm. Là, encore une fois, certaines analyses peuvent aller vite pour déterminer si on est bien en présence du corps de Delphine Jubilard. Mm. Mais ensuite, on pourra déterminer si elle a été frappée, si elle a été étranglée. Tout ça, tous ces ossements vont aider à cela?
Bien sûr. Alors, lui, visiblement, dit qu'il l'aurait étouffée. C'est ce qu'il avait, il avait raconté plusieurs fois à Séverine, son ex-copine. Quelqu'un qui est étouffé, c'est pas quelqu'un qui reçoit un coup de couteau ou une balle. Une balle ou un coup de couteau peut laisser des traces sur les os ou pas. C'est-à-dire, si une balle passe entre deux côtes et ressort entre deux côtes, elle va perforer des organes vitaux. La personne va mourir, mais il y aura pas de traces de balle quand on retrouvera son squelette, parce que là on ne retrouve qu'un squelette. Il y a plus de partie molle. Les légistes parlent comme ça. Partie molle, ce sont les chairs, les organes. Donc, si la balle n'a pas touché le corps, il y a pas de traces. Le couteau peut avoir laissé, un couteau peut avoir laissé des traces de ripage sur une côte ou d'impact sur le bassin. Une pointe de couteau. Là, on n'est pas visiblement dans cet aspect-là, dans cette configuration. On est plus dans une configuration d'étouffement. Mmh. Étouffement. Donc ça, on l'a répété 10 fois, mais on va le dire très rapidement. Le larynx se casse. Ce petit os qui est ici, l'osioïde, qui est le seul os qui n'est pas rattaché au squelette, se casse. C'est un petit morceau de cartilage. Donc là, on le retrouvera jamais parce qu'on est 5 ans et demi après. On pourra pas le savoir comme ça si elle a été étouffée. On pourra le savoir peut-être par ses dents, si on avait la chance de retrouver sa mâchoire et ses dents, parce que les dents ont une coloration quand une personne est étouffée, parfois.
Parfois. Encore une fois, il faut le rappeler aussi, il a été jugé, Cédric Jubilard. Il y a un an, reconnu coupable, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La justice, et en première instance, la Cour pénale, a décrit notamment le domicile des Jubilard comme une scène de crime. Mais, c'est important de le rappeler, sur les examens qui ont été faits de ses vêtements, de sa voiture, aucune trace de sang à l'époque retrouvée, aucune trace non plus de terre.
Bravo.
Quand on comprend ce qui possiblement s'est passé, ça veut dire quoi? Qu'il a sans doute pris beaucoup de précautions si aucune terre n'a été retrouvée sur lui à l'époque?
Alors, ça veut dire, s'il n'y a pas de trace dans la voiture, que Delphine Jubilard n'a pas été tuée avec un couteau ou une arme à feu parce qu'elle aurait saigné. Ça veut dire qu'elle a pu être étouffée. C'est une hypothèse. Ensuite, emporté dans un linceul, dans un drap, c'est ce qu'avait Jonathan Daval quand il a tué sa femme Alexei, il l'a transporté dans un drap ou ce qu'il avait pris dans l'armoire de la maison, pas très malin parce que le drap manquait et on l'a retrouvé sur la scène où était le corps d'Alexei Daval. Donc Cédric Jubilard peut avoir emporté le corps dans la voiture sans qu'elle saigne, sans qu'elle laisse des traces dans cette voiture et puis l'avoir déposé là où il dit l'avoir déposé, oui c'est vrai puisque c'est là qu'on la retrouve. Et ensuite être rentré sans avoir laissé dans la voiture des traces suspectes. Et puis je vous rappelle quand même que c'est le mari Donc son ADN, on le trouve forcément dans la voiture de sa femme. C'est une voiture qu'il utilise de temps en temps. Donc la voiture n'a pas parlé, mais c'est quelque chose qui a été tenté. Hein. Les gendarmes ont démonté cette voiture comme ils avaient démonté la voiture de Nordal Lelandais. Souvenez-vous, la trace de sang microscopique.
On qui a avait permis dans cette d'arriver en effet à, c'est qu'il à a... démontrer sa culpabilité.
Absolument. C'est qu'il a eu de la chance. Cédric Jubilard a eu de la chance.
De la chance, mais désormais, une forme de changement de stratégie. Ouais. J'aimerais qu'on remonte le fil. Des dénégations devant les autorités, devant la police, devant la cour criminelle, encore une fois. Des aveux faits à une compagne rencontrée en prison, à des co-détenus. Séverine, Marco, en effet. Et puis, un changement d'avocat en début d'année. Et cette lettre envoyée, il y a 10 jours maintenant, et ses paroles prononcées devant les enquêteurs, devant la magistrate, qui l'amène donc sur ce champ pour ses aveux, en effet, total changement de stratégie. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Mais d'abord, est-ce que la suite aussi, ça va être le fait que Cédric Jubilard soit amené pour d'éventuelles reconstitutions, pour que l'enquête, encore une fois, avance? Ça aussi, c'est la suite, Dominique Rizet?
Moi, j'ai un scénario en tête. Bien sûr, il va y avoir une reconstitution. On va lui demander, on va aller sur la scène de crime. La scène de crime, c'est la maison. La maison dans laquelle on a retrouvé ses lunettes, cette branche de lunettes qui appartenait à Delphine Jubilard, cassée. Dont un expert dira, pour casser une lunette aussi solide, il faut vraiment une pression, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est assis sur les lunettes. Ça, c'est la scène de crime. Donc, on ira sur place. On va demander à Cédric Jubilard, qui sera là avec ses avocats, Pierre et Guy de Buisson. On va lui dire, est-ce que vous acceptez de participer à la reconstitution? Oui, non. Si vous participez, refaites les gestes. Soit il y aura un mannequin, soit il y aura une femme gendarme de la taille de Delphine Jubilard. On lui dira, montrez-nous comment vous l'avez étranglée. Est-ce qu'il refera ce fameux geste qu'il avait raconté à Séverine de passer son bras derrière
le clé de bras? Juste, Dominique, est-ce que de votre point de vue, on peut pas lire dans l'avenir, est-ce qu'il va se passer, mais au vu du tournant que Cédric Jubilard et sa défense a opéré, ça signe le fait d'une plus grande collaboration et donc d'une participation à une reconstitution?
Marie, il va participer, bien sûr qu'il va participer à la reconstitution. Il est sur le chemin des aveux et de la vérité. Donc oui, il va participer à la reconstitution. Il va refaire les gestes. Il va raconter les gestes qu'il a fait ce soir-là, qu'il a posé ce soir-là, les actes qu'il a posés. Mais ça sera sa seule version. Et sa version, on imagine comment il va jouer la reconstitution. Premier temps de la reconstitution dans la maison. Deuxième temps de la reconstitution, et là ça va être intéressant, la voiture, vous êtes allé sur place, montrez-nous, vous démarrez la voiture, vous descendez la rue sans le moteur, vous démarrez avec le moteur un peu plus bas, vous roulez sans les phares, c'est une vieille voiture. Les voitures d'aujourd'hui, quand on met le contact, tout s'allume.
En plein confinement, on le précise aussi.
En plein confinement.
On est en décembre 2020.
Absolument. Juste,
ce sont des
actes. Il fait 10 km sans phare.
Oui.
Et dit, j'arrive en pleine nuit et j'arrive dans un endroit et je vais enterrer le corps. Et là, ça va être intéressant. Parce que Marie, imaginez que la reconstitution, le procès n'aura pas lieu le 21 septembre.
J'y viens, justement. Parce qu'en effet, il y a le procès en appel. Le 21 septembre. Mais que joue et pourquoi aujourd'hui, en langage policier, on dit quoi? Il passe à table. Pourquoi il va si loin dans ses aveux? C'est parce qu'il y a ce procès en appel aussi le 21 septembre. Ses avocats nous disent hier soir, ça serait grotesque que cette date soit maintenue. De votre point de vue aussi, c'est impossible, ces délais sont intenables au vu des actes d'enquête qui vont devoir être menés.
Oui, il y a plein de choses à faire. L'autopsie, l'analyse de l'autopsie, la toxicologie, est-ce qu'elle a été sous médicaments? Ensuite, il va falloir organiser la reconstitution. Au mois d'août, la justice est en vacances, comme tout le monde, on est tous en vacances et c'est normal. Et puis ensuite, il va falloir peut-être refaire des expertises psychiatrique, psychologique.
Et la temporalité a son importance parce que vous le soulignez, on est au mois de décembre. Au mois de décembre, il fait froid et un terreau, en tout cas de la terre, n'a peut-être pas la même apparente et aspect qu'au mois de juin. Ouais. Ça aussi, a son importance pour les enquêteurs et la défense, j'imagine.
Ce que peuvent faire les magistrats, c'est dire, quand on fait une reconstitution, il faut que ce soit à peu près à la même époque, dans les mêmes conditions météo, à la même heure du jour ou de la nuit, etc. Et donc là, imaginez, pas de procès le 21 septembre, et les juges disent, la reconstitution, on va la faire, la deuxième partie de la reconstitution. Vous prenez votre voiture, vous emmenez le corps sur place, vous dites que vous avez gratté la terre, on va faire ça le 15 décembre. On va regarder la météo du 15 décembre, la température, on va voir si c'est la même température qu'en 2020, mais on le sait déjà, en 2020, on sait quelle était la température. Imaginez qu'il fasse 4 degrés, et on va lui dire, monsieur Jubilard, vous nous dites, c'est Frédéric Abélard de La Dépêche qui le dit ce matin, vous avez gratté la terre, allez-y gratter la terre le 15 décembre, et il y avait une cavité, vous avez mis le corps de votre femme dedans, remettez la terre par-dessus. Je suis pas sûr que le 15 décembre, dans une terre comme ça, ça va être très facile de refaire les mêmes gestes.
Je disais, qu'est-ce qu'il se joue et pourquoi cette nouvelle stratégie de Cédric Jubilard, de sa défense également et des mots très durs de sa défense. Hier, Maître de Buisson disait « Les enquêteurs sont passés à côté de choses énormes dans les 48 heures qui ont suivi la disparition de Delphine. » Encore une fois, on est à une quinzaine de kilomètres de leur domicile. Mm-hmm. Six ans plus tard, cette zone n'a pas été fouillée par les gendarmes. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça se comprend? Encore une fois, vous connaissez ces affaires par cœur. Ou est-ce que vous y voyez une forme de défaillance, là aussi?
Non. Ça s'explique. C'est quand même très très loin, 10-15 kilomètres. Et puis c'est un rayon. Hein. On leur dit pas, à 10 kilomètres dans cette direction-là, vous avez le corps de Delphine Jubilard. C'est dans un rayon, donc ils ont cherché. Mais évidemment, ce qui est classique a été fait. Les points d'eau, les cimetières, même j'ai regardé dans les cimetières, les cavités, etc. Mais hier, quelqu'un disait, tiens, je prends cet objet-là et je vais le cacher à 10 kilomètres. Je dis à 10 kilomètres d'ici, essayez de le retrouver. Mm. Bon, donc c'est très compliqué. C'est pas que le boulot n'a pas été fait. Moi, je pense que la botte secrète des avocats, quand ils disent, il y a quelque chose, le train n'a pas été fait dans les 48 heures, c'est le téléphone portable de Delphine Jubilard qui n'a jamais été retrouvé. Mm. Donc,
et là aussi, les enquêteurs peuvent aussi.
Il a dit, Cédric Jubilard a dit forcément aux magistrats et à ses avocats où était ce téléphone portable, ce qu'il en avait fait, il est obligé de le dire. Mm. Il avoue, il doit tout avouer. Donc, il doit dire où est ce téléphone. Et j'imagine que là, quand on va savoir où est le téléphone, ça va peut-être poser un problème à l'enquête de la gendarmerie.
Dominique Rizet, je le disais en introduction de cette interview, on pense à la famille, aux enfants.
Bien sûr.
Louis, 11 ans aujourd'hui, le petit garçon, a vraisemblablement aussi, via ses avocats, demandé une dernière fois à ce que son père parle et dise où était sa maman. Mm-hmm. Peut-être que ça a joué aussi sur la psychologie de Cédric Jubilard. Qu'est-ce que ça change aussi? Une fois que ces analyses auront été faites, les avocats de la famille disent on va pouvoir enfin, sans enlever le drame et l'horreur de ce qui s'est passé, avoir une sépulture. C'est ça aussi qui va pouvoir avoir lieu et se dérouler dans les prochains mois.
Ça, c'est le chapitre manquant de cette affaire. Cette affaire, c'est une affaire dans le désordre, une affaire criminelle dans le désordre. Mmh. Le chapitre 1, elle disparaît. Le chapitre 2... Son mari est condamné, sans aveu, sans scène de crime, sans corps. Chapitre 3, il est en prison et il fait appel. Chapitre 5, et donc il avoue, il emmène les enquêteurs sur les lieux. On peut écrire le chapitre suivant, un nouveau procès va avoir lieu, manque les obsèques. Entre maintenant et le prochain procès, il va y avoir les obsèques de Delphine Jubilard. On va les suivre sur BFM TV. On sait déjà comment ça va se passer. On va voir les enfants qui vont marcher. Bien sûr. Va voir les amis IES de Delphine qui se sont tant battus pour la vérité. Cette pancarte qui est posée devant chez eux, aidez-nous à retrouver Delphine,
elle n'existera plus.
On va l'enlever. Et là, il va y avoir des avocats qui vont dire si ce chapitre 5, les obsèques existent, c'est parce que celui-ci, notre client, Cédric Jubilard, a avoué et c'est grâce à lui que Delphine Jubilard a une sépulture.
Et là, un mot de conclusion, juste Dominique.
Ça peut changer les choses.
Pourquoi cette affaire fascine tant, difficile à dire en quelques secondes?
Moi, je dis parce que c'est une affaire dans le désordre. Une affaire dans le désordre, c'est une espèce de mécano criminel. Dans le désordre, comme l'esprit de Cédric Jubilard, comme le monde dans lequel il vivait, comme cette baraque, même pas finie, déconstruite. Cette vie qu'il imposait à Delphine Jubilard, elle n'en voulait plus. Elle voulait plus vivre avec lui. C'est une histoire d'amour qui se termine mal. C'est une femme qui veut quitter son mari, qui a une nouvelle vie, un nouvel amour. Et lui la tue parce qu'il veut pas la laisser partir. Il considère qu'elle lui appartient.
Merci beaucoup, Dominique Rizet, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h47 et vous êtes bien toujours sur BFM TV et RMC.